7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisines et les voisins, oh joie, nous passons la semaine ensemble. Et pour commencer cette semaine, nous nous intéresserons, les voisins, aux ouvrières françaises. Ce que l'histoire retient des figures fortes de la lutte ouvrière, ce sont principalement des figures masculines, toujours, à l'exception notable d'Arlette Laguiller. Et en même temps, c'est une figure politique. Et pourtant, comme à chaque fois qu'elles ont intégré un corps de métier, l'arrivée des femmes dans les usines en a impacté le fonctionnement, pas seulement parce qu'il a fallu adapter un peu, voire réorganiser, mais avant tout parce qu'elles aussi se sont battues et continuent de se battre. C'est vrai en France, mais également en Indonésie, en Belgique ou en Birmanie, comme l'actualité récente le rapporte régulièrement. Leur but, faire reconnaître leurs droits de travailleuses aux côtés de leurs collègues masculins, leurs droits de femmes aussi, de parents, au sein de l'usine. Alors, qui sont ces femmes qui, dans les usines, ne s'en laissent pas compter? D'où tirent-elles leur légitimité? Qu'ont-elles accompli jusqu'ici et sur quelles sur quel soutien pourront-elles compter? Elles ont changé l'usine, mais aussi qu'est-ce que l'usine a changé en elle? Et puis, que nous dit la place faite aux ouvrières dans un pays qui se veut égalitaire? Pour en parler avec nous, deux invités, deux femmes, on n'a pas fait exprès, précisons-le. Fanny Gallo, historienne, avec nous en studio à Issy-les-Moulineaux, auteure du livre « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société » aux éditions de La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et en duplex avec nous, grâce à nos confrères de Radio France Lyon, Anne Flottès, consultante spécialisée dans les enjeux psychiques au travail, auteure de Travailler, quel boulot, les conflits du travail, enjeux politiques du quotidien, c'est aux éditions Sileps. Bonjour.
Bonjour.
Les voisins, que vous inspire le destin et les combats des ouvrières françaises? Comment vivent les ouvrières chez vous? Ont-elles le droit de se syndiquer, de s'organiser? Comment sont-elles considérées? Pensez-vous qu'elles sont à leur juste place? Ou bien au contraire, trouvez-vous qu'il y a encore beaucoup à faire? Un numéro pour échanger, pour communiquer et échanger, 33 1 84 22 71 71. Je répète, pour les stylos tombés au fond des sacs, 33 1 84 22 71 71. Anne Flottès, Fanny Gallo et les voisins, pour bien appréhender ce que peut être la vie d'une ouvrière, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Lydie. Cette ouvrière de 50 ans travaille dans la métallurgie, un secteur où l'on compte seulement 21% de femmes. Pour 1 400 € par mois, elle commence une semaine sur deux son travail à 5h30 du matin et assemble des voitures à la chaîne dans l'usine PSA Peugeot Citroën au nord-ouest de Paris. Antoine Lalanne-Desmets l'a rencontrée.
J'ai été gérante d'entreprise d'une société de plomberie avec mon époux et suite à un divorce, j'ai pris le premier emploi que j'ai trouvé pour pouvoir vivre et survivre. Voilà. Pour moi, c'était toujours un emploi en attendant de trouver autre chose. Et au bout d'un mois et demi, on m'a proposé un CDI et en fin de compte, ça fait 10 ans que je suis là.
Pourquoi vous êtes restée?
Parce que, comme tout le monde, on a une famille à nourrir, qu'on a un emploi stable et que, voilà, le travail est pas si désagréable, même s'il est dur. Mais voilà, un emploi stable, un CDI, je pense que c'est une chose qu'on lâche pas.
Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu votre environnement de travail?
On est debout, on a des voitures qui passent toute la journée, donc avec des pièces au bord de la chaîne qu'on doit prendre, qu'on doit installer sur la voiture, sans arrêt pendant 7 heures. Il n'y a pas moyen de s'arrêter, vous avez deux petites pauses dans la journée, une de 8 minutes, une de 12 minutes, imposées pour tout le monde. C'est-à-dire que les deux bâtiments en montage s'arrêtent en même temps. Parce que sinon on ne pourrait pas, il y aurait des chaînes qui tournent, ça bloquerait. Non.
Est-ce que vous avez des douleurs au corps? Est-ce que vous vous sentez bien?
Écoutez, au début, 5-6 premières années, aucun problème. Et au bout de quelques temps, et je pense que c'est une majorité des maladies qui se trouvent dans ce genre d'usine, beaucoup de tendinites, des choses comme ça, des canals carpiens, parce qu'à force de porter des machines qui vous écrasent la main, les mains trinquent. Voilà, il y a je pense que les jambes aussi, à force de piétiner, ça c'est le principal souci d'un travailleur en chaîne.
Votre fils, il a 9 ans. Est-ce que vous lui conseilleriez de faire ce métier en usine comme vous faites tous les jours, Lydie?
Je crois pas. Je vais être honnête avec vous. Je l'ai pas entendu me dire, quand je serai plus grand, je vais aller monter des voitures. Il voit bien que quand je rentre, je suis fatiguée. Mais bon, c'est pas que ce que je fais, c'est pas bien. Voilà, j'en suis pas fière, pas du tout, c'est pas ça. Mais on souhaite autre chose pour ses enfants que de travailler en usine, même si, bah voilà, on a besoin de nous, puisque sinon, bah, vos voitures, vous en avez pas.
Est-ce qu'il y a une différence de traitement entre ouvriers et ouvrières?
Alors non, c'est tout le monde pareil. La chaîne, elle tourne, tu restes à ton poste et tu fais ton travail. Là-dessus, il n'y a aucune différence. C'est pour tout le monde pareil, voilà.
Je vous pose la question parce que dans le secteur de la métallurgie, il y a environ une femme pour 5 employés. Donc, c'est rare qu'une femme travaille dans une usine et soit ouvrière.
C'est vrai que c'est un monde d'hommes, un monde un peu machiste, hein, faut dire ce qu'il y a. Et les blagues un peu potaches, un peu ceci. Maintenant, si oui, on se met pas un peu à ce niveau-là, et ben, on va vous regarder bizarrement. Mais une fois que vous mettez les limites et que vous vous faites respecter, il n'y a aucun souci.
Comment on fait pour se faire respecter ?
On évite de trop rigoler, de trop voilà, laisser les gens faire, prendre le dessus sur vous. Et puis voilà, vous faites votre job, vous montrez que vous faites votre job et tout se passe bien. Peut-être sur l'évolution, qui est peut-être un petit peu plus difficile pour une femme, parce que on a beaucoup de jeunes, et voilà, ces jeunes se faire diriger par une femme, c'est pas toujours évident. On vous prend plus à la rigolade, on vous parle un petit peu moins bien, donc ils vous répondent un peu sèchement, vous vous en montrez que voilà, c'est eux les gars, et que voilà, c'est comme ça. Après, dans la société, dans la voie hiérarchique, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes au niveau RH, dans les bureaux. Là, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus calme.
Est-ce que n'importe quelle femme pourrait trouver sa place dans l'usine dans laquelle vous travaillez, Lydie, ou ça pourrait être difficile pour certaines?
Je pense pas que c'est difficile. Je pense que PSA aimerait bien qu'il y ait plus de femmes représentées dans son usine. Ouais. Il y a aussi peut-être une hésitation, voilà, de la femme par méconnaissance à venir dans ce genre d'emploi et d'usine, hein, c'est possible aussi. Elle s'arrête, comme on dit, à un monde machiste, des hommes partout. Comment ça va se passer? Comment on va me traiter? La peur de l'inconnu, hein. Une fois qu'on a mis le pied dedans, hein, moi je vous dis tout va bien, aucun problème. Voilà, je souris, je rigole, je plaisante et puis ça se passe très bien comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Faut pas prendre les choses au premier degré quand vous avez des petites attaques, des petites réflexions où on vous pique un petit peu dans ce genre d'endroit, quoi. Et puis après, ça passe. Après, vous êtes la bonne copine. Voilà, comme vous êtes le bon copain. C'est pareil. On vous tape sur l'épaule et puis tout va bien.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Voilà, le sourire d'une ouvrière prénommée Lydie, un reportage d'Antoine Lalanne Desmet. Alors, Fanny Gallo, j'aimerais avoir votre réaction déjà sur la différence de traitement. Le secteur ouvrier serait plus démocratique en termes de répartition du travail, si l'on en croit Lydie?
Non, mais ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage, c'est que on note bien justement ce que j'ai appelé, mais pas seulement moi, des sociologues avant moi, la division sexuée du travail. Oui. C'est-à-dire que dans la métallurgie, bon, il y a quand même des ouvrières, puisque par exemple, moi j'ai travaillé sur Moulinex et ça faisait partie de la métallurgie, et effectivement, donc il y avait des ouvrières qui travaillaient comme ouvrières spécialisées et qui, bon, voilà, mais elles sont donc effectivement pas la majorité des ouvriers, des ouvriers et des ouvrières de la métallurgie, mais elles sont en fait réparties dans d'autres secteurs de production, comme le textile ou l'habillement ou même l'électronique, ou qui sont des secteurs beaucoup plus féminisés. Je pense que...
Donc Lydie est une exception, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Non, je pense pas que Lydie soit une exception. Je pense qu'il y a des ouvrières dans la métallurgie, mais est-ce que, effectivement, c'est une minorité dans le secteur de la métallurgie, même si ça dépend des entreprises, puisque Moulinex, il y avait quand même 60% d'ouvrières et 40% d'hommes, en fait. Voilà, et alors après, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'elles disent dans un premier temps, il n'y a aucune différence différence de traitement, c'est pour tout le monde pareil. Et puis qu'après, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que il y a quand même des petites différences, ne serait-ce que le fait de se faire respecter, ce qui renvoie à des enjeux, des mobilisations des ouvrières, mais aussi des ouvriers, des OS immigrés, qui est la question de la dignité.
Les OS, c'est-à-dire
les ouvriers spécialisés, oui, pardon. On appelle plus ça comme ça hein, aujourd'hui, puisqu'on parle d'agents de production, mais dans les années 70, on parlait d'OS, et il y avait des mobilisations très importantes, justement, de ces OS ou de ces ouvriers et ouvrières spécialisés. Et donc, voilà, elle revient sur cette question de la dignité qui se pose à tous les niveaux, c'est-à-dire qui se pose avec les collègues, qui se pose avec les supérieurs, etc. Elle revient sur les évolutions difficiles, elle revient sur le fait que c'est difficile d'être une femme et de, par exemple, avoir des postes de commandement,
des postes à responsabilité.
Des postes à responsabilité.
Du coup, vous reconnaissez, à travers les propos de Lydie, des femmes que vous avez rencontrées.
Ah oui, bien sûr. Totalement.
Pendant votre enquête, en préparant votre thèse.
Totalement.
C'est vraiment le profil.
Le profil type, je sais pas, mais oui, je pense qu'il y a énormément de choses qui reviennent dans son témoignage.
Oui.
Et voilà, fondamentalement, même s'il n'y a pas forcément de différence en termes de salaire, et on va dire, ce que disent les ouvriers et les ouvrières, c'est qu'il y a une égalité de traitement en termes de salaire. Le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'égalité, puisque les ouvriers et les ouvrières ne font pas le même travail. Et donc, du coup, par exemple, c'était un ouvrier, je suis peut-être pas très claire, mais un ouvrier que j'ai rencontré de Moulinex, qui m'expliquait que il n'y avait pas de problème d'égalité de salaire chez Moulinex, oui. Tout simplement parce que ils faisaient pas le même travail. Donc, du coup, ils sont pas sur les mêmes grilles, et donc, du coup, ils sont pas payés de la même manière.
C'est-à-dire. Donc, il n'y a pas de comparaison
donc,
possible.
Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà.
Ce qui n'est pas le cas de ce que décrit Lydie. Elle dit qu'elle fait le même travail, il y a des hommes autour d'elle, et ils font absolument le même travail, donc
là,
elle est un peu.
Oui.
Elle est un peu spéciale
par rapport
à ce que vous avez observé. Anne Flottès.
Oui, je suis.
Que vous inspire ce reportage?
Je suis pas tout à fait de cet avis. Déjà, avant le reportage, je voulais juste dire un mot parce que dans votre présentation, vous avez dit l'entrée des femmes dans les usines. C'est déjà un petit peu problématique, je trouve, de dire les choses comme ça, parce que je pense que les femmes ont toujours été dans les usines, simplement on ne parlait pas d'elles, et qu'avant même d'être dans les usines, comme les hommes d'ailleurs, elles ont travaillé de façon industrielle à la maison ou dans des tout petits ateliers.
Mais j'imagine que vous avez entendu la suite de ce que j'ai dit, c'est que leur présence dans les usines a impacté le travail dans les usines d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vous qui allez nous décrire la profondeur du changement.
Je pense que c'est... Ben non, parce que justement, elles ont toujours été là. Donc c'est
non, pas, mais la question n'est pas qu'elles aient été là ou pas. La question, c'est ce qu'elles ont apporté en tant que femmes au sein de l'usine. C'est ça ma question.
Oui, à partir du moment où c'est d'emblée que les femmes sont là.
Oui, elles sont là dès le départ.
On ne sait pas ce qu'elles ont apporté ou pas apporté, parce que
aujourd'hui on a un petit peu de recul quand
même. Autre chose. Oui. Enfin, ça me paraît difficile de poser la question comme ça, parce que j'en viens à la suite, qui est comme vient de le dire Fanny, mais je pense qu'il faut vraiment le dire de façon très très profonde, très précise, même si les femmes sont sur le papier avec la même qualification, le même travail, le même emploi, le même salaire, etc., en réalité, ce n'est jamais vrai. C'est-à-dire qu'elles ne font jamais exactement le même métier, elles ont jamais exactement le même niveau, la même qualification. Et souvent, elles ne sont, alors ça c'était pas le cas de Lydie, mais souvent elles ne sont pas dans les mêmes ateliers. J'ai moi-même travaillé pendant 5 ans comme ouvrière dans l'électronique. J'étais dans une entreprise rarissime où il y avait une femme P3. Mais ça n'arrivait jamais.
Alors,
je crois que c'était
P3,
la
qu'est-ce que ça veut
professionnel
dire
de troisième niveau, ce qui est dans la métallurgie le niveau le plus élevé des ouvriers, je dirais ordinaires, sans parler des ouvriers qui basculent du côté technicien. Donc c'était une rareté.
Oui.
Et de toute façon, les hommes, eux, avaient tous ce niveau de P3. Ils étaient dans un autre atelier et ils faisaient bien sûr pas du tout la même chose.
Et donc, où se situait la différence, Anne Flottès?
En l'occurrence, c'est encore intéressant parce que ça permet de mesurer des choses dans l'histoire. Oui. En l'occurrence, les femmes faisaient des circuits, électroniques, des circuits, ce qu'on appelait les circuits imprimés, où on implantait des composants.
Oui.
Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça n'existe plus parce que soit c'est fait dans des pays en voie de développement ou considéré comme tel, en tout cas à salaire bien inférieur, soit ça a été remplacé par des circuits intégrés qui ne nécessitent plus ce travail. Et c'est ça qui m'amène à parler du fait que c'est très très difficile de faire des comparaisons. Parce que même quand sur le papier les choses sont similaires, elles ne le sont pas. Pourquoi est-ce que les travaux exécutés par les femmes ont été plus facilement délocalisés que les travaux exécutés par les hommes? C'est parce qu'ils étaient considérés comme non seulement moins qualifiés et moins chers, donc plus facilement concurrençables, mais surtout relevant de qualités dites féminines, c'est-à-dire... En l'occurrence, le fait d'être capable de faire des travaux extrêmement minutieux et monotones sans en tomber malade, eh bien ça, c'est considéré comme étant de la nature des femmes. Et du coup, on ne les rémunère pas et on pense que toutes les femmes, qu'elles soient ici ou ailleurs, d'une façon ou d'une autre, sont capables de le faire.
7 milliards de voisins se demandent ce que vivent les ouvrières et nos deux invités nous répondent 1. Une situation inégalitaire, 2. Une situation plutôt essentialisée. Tout de suite, c'est la musique de Rory, ça s'appelle Vancouver Sleep Clinic et on continue de faire le profil et de découvrir qui sont ces ouvrières. Yeah, we all want someone, and we all want something. Life can be so simple when we just want one thing. Yeah, we all want someone. Yeah, we all want something. If there's one thing I know, it's not gonna be super fly. Summer night, come pretty lady, I'ma hold you tight. Just know that I will always stay goodbye. I'm feeling super fly. You don't believe what's here before your eyes. Got gasoline and I just need the fire. No transportation, I've been getting high. La musique de Rory dans 7 milliards de voisins, ça s'appelle Vancouver Sleep Clinic. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Fanny Gallo, l'historienne, et Anne Flottès, qui est consultante sur les questions de d'enjeux psychiques au travail. Alors, Fanny Gallo, juste avant le flash info, dans votre livre, En découdre, vous expliquez que les années 68, autour des années 68, il y a comme un tournant pour les ouvrières.
Oui, effectivement. Si dans le mouvement de mai-juin 68, oui. En lui-même, la question des revendications des ouvrières est pas forcément apparue, c'est pas celle qu'on retenait, effectivement, et elles étaient absentes d'ailleurs des leaders qui ont fait les négociations, etc. Par la suite, ce mouvement de mai-juin 68, et je pense qu'il est aussi enfin, le mouvement féministe qui s'est développé dans la même période a aussi fait que il y a des luttes qui se sont développées, en particulier sur la question des conditions de travail, pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, le rendement, la chaîne.
Ce que Anne Flottès expliquait tout à l'heure.
Effectivement,
très bien.
Pour aussi, bon d'ailleurs, pour dénaturaliser un certain nombre de choses, puisque par exemple il y avait des ouvrières qui faisaient des crises de nerfs sur les chaînes, ce qui conduisait à des débrayages, des arrêts de travail, quelquefois même prolongés, et tout ça a contribué justement à rendre visibles justement des revendications spécifiques des ouvrières.
Les crises de nerfs et les questions de santé, nous en parlons justement après le flash. 7 milliards de voisins et des travailleuses presque comme les autres, les ouvrières. Nous intéressons aux ouvrières françaises, mais aussi à celles du monde, les voisins. Que font-elles? Comment travaillent-elles? Donnez-nous votre point de vue. 33 1 84 22 71 71. On se retrouve après le flash info.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins, aujourd'hui la vie des ouvrières. Elles ont par leur militantisme, par leur mobilisation, joué un rôle déterminant dans l'évolution de la vie de leur usine du moins. Mais à quel prix? Quel combat reste à mener? À quoi ressemblera l'ouvrière du troisième millénaire? Qu'est-ce qui est acquis et ne régressera pas? Qu'est-ce qui reste à conquérir? Ces questions et les vôtres, les voisins, je les poserai à l'historienne Fanny Gallo et à Anne Flottès, qui est consultante spécialisée dans les enjeux psychiques. Le standard est là pour recueillir vos questions, vos réflexions. 33 1 84 22 71 71. Fanny Gallo, les ouvrières sont souvent mamans. En quoi est-ce que ce statut de mère influe sur leur manière de travailler et peut-être un peu plus loin sur leur engagement militant?
Oui, alors
il y a un lien quand même.
Oui, il y a un lien, bien sûr. Je pense que ce qui me paraît fondamental, c'est de ne pas dissocier en fait le travail professionnel du travail domestique. Et je pense que ce que dans l'analyse on a pu montrer, c'est qu'il y a une forme de continuum et que en réalité c'est la double journée de travail qui d'ailleurs a été rendue visible aussi dans les années 70, dans le cadre de ces mobilisations d'ouvrières, mais pas seulement d'ouvrières.
Dans la foulée de mai 68.
Voilà, dans la foulée de mai 68. Et puis dans le contexte du mouvement féministe aussi, hein, je pense que c'est important de dire ça aussi. Je pense qu'il y a effectivement, il y a un continuum, c'est-à-dire que quand elles sont à l'usine, elles pensent à tout ce qu'elles ont à faire quand elles rentrent, et quand elles sont chez elles, elles pensent aussi à leur travail à l'usine et où est-ce qu'elles en sont. Et d'ailleurs, quelquefois, elles disent, elles n'arrêtent pas de courir et elles ont une manière d'organiser leur vie domestique comme la vie à l'usine, de manière taylorisée, avec par exemple leur mère. Maître mot, c'est souvent l'organisation. Elles sont toujours en train de dire qu'il faut qu'elles s'organisent, elles doivent s'organiser et leurs horaires sont toujours très bien. Tout est toujours très bien.
Tout est très défini, très délimité.
Voilà, très défini, très délimité, effectivement. Et je pense que de ce point de vue, du coup, c'est effectivement un effet sur l'engagement militant, puisque dans le cadre de l'engagement militant, on a des ouvrières qui sont devenues syndicalistes et qui ont été très impliquées au niveau syndical en particulier dans l'usine. Et pour autant, bien souvent, même quand elles sont en train d'occuper l'usine, même quand elles sont en mobilisation, etc., elles gardent cette délimitation, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles aillent chercher leurs enfants à l'école.
Elles peuvent faire le piquet, mais jusqu'à un certain moment.
Et quelquefois, elles vont quand même dormir la nuit, elles repartent le matin chez elles pour préparer le petit déjeuner de leurs enfants et de leur mari, et puis elles reviennent à l'usine, quand elles ont eu la possibilité de venir occuper la nuit, en fait. Donc je pense que sur l'engagement militant, ça a bien sûr un effet, le fait d'assumer aussi la double journée de travail.
Leur rythme de vie. Anne Flottès, vous nous disiez en première partie que vous avez été, vous aussi, ouvrière. Vous vous reconnaissez dans ce rythme et dans ces journées comme ça, millimétrées?
Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas que les ouvrières. C'est quand même vrai aussi.
Beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans cette description.
Sûr, oui.
Mais même une femme chef d'entreprise.
Tout à fait. J'aurais envie d'insister sur deux points pour surenchérir par rapport à ce que vient de dire Fanny et pas du tout pour être en contradiction. Je pense que les femmes ont des ressources de militantisme différentes des hommes. Et qui tiennent justement au fait qu'elles ont toujours deux travails. Moi, je considère que le travail professionnel et le travail domestique ou de reproduction, suivant le nom qu'on lui donne, ont une égalité d'importance et dans la vie des femmes, pas que les ouvrières, encore une fois, et que du coup, ça les rend extrêmement sensibles à des choses pour lesquelles les hommes n'ont pas les mêmes réactions. Je prendrai deux exemples pour ne pas embouteiller trop. Le premier, c'est celui du sens du travail. Les femmes accordent beaucoup plus d'importance et d'attention au fait que le fait qu'elles produisent soit utile, soit alors de qualité, les hommes aussi, mais correspondent à une utilité précise. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toujours à la fois consommatrices, et souvent les premières consommatrices, et productrices.
Elles sont les fameuses ménagères de moins de 50 ans.
Oui, ménagère de moins de 50 ans ou
plus.
Oui, enfin, c'est une formule qui illustre bien, oui. Mais même celle de plus de 50 ans, d'ailleurs.
Oui.
Parce qu'elles ont des souvenirs. Et des petits-enfants dont elles s'occupent, etc. Il y a toute une chaîne sociale qui est portée par les femmes et elles ne peuvent pas, là je reprends ma casquette un petit peu consultante psychique, elles ne peuvent pas psychiquement séparer leur activité professionnelle et leur activité de travail domestique. Et du coup, elles vont être extrêmement pinaillantes et attentives sur, par exemple, Fanny qui parlait de l'électroménager tout à l'heure, sur à quoi vont servir ces équipements, comment ils vont pouvoir être utilisés, etc. À tel point que certaines entreprises ont utilisé cette capacité des femmes pour définir les meilleurs objets à produire. Je prendrai un deuxième exemple qui me paraît tout aussi important. Parce que les femmes sont mères ou en puissance de l'être, elles sont aussi beaucoup plus sensibles que les hommes, ou je dirais plus techniquement, elles ont des défenses beaucoup plus subtiles que les hommes par rapport aux questions de danger au travail. Les hommes peuvent avoir à affronter des dangers qu'on appelle virils, hein, qui sont des dangers pour la vie, mais qui sont des dangers qui se voient, c'est il faut pas tomber d'un échafaudage. Les femmes sont beaucoup plus confrontées à des dangers insidieux, ce qu'on appelle, je vais traduire tout de suite, les CMR, les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, ou les nanotechnologies, qui sont des produits extrêmement dangereux pour tout le monde, mais en particulier pour la reproduction. Et autant les hommes peuvent quelquefois faire un peu le fanfaron, pour employer une image facile, vis-à-vis du danger, autant prendre un danger pour autrui, ce qui est le cas d'une femme qui pense qu'elle est enceinte ou qu'il l'est réellement, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, dans beaucoup d'interventions dans lesquelles je suis tombée dans des entreprises qui m'avaient appelée pour des risques psychosociaux, sur des questions beaucoup plus objectives de risques tout court, de risques pour la vie, les femmes étaient les premières à mettre ça en mots, alors que ça restait tabou pour les hommes.
D'accord, mais alors du coup, et je vous pose la question à l'une comme à l'autre, est-ce que cette conscience du danger et cette double journée qu'elle porte comme ça à bout de bras influe sur leur engagement? C'est-à-dire, est-ce que ça ne recule pas leur engagement militant? Est-ce que c'est ce qui explique qu'on voit beaucoup plus de syndicalistes hommes que femmes? Alors qu'au fond, elles vivent aussi péniblement que les hommes leurs conditions de travail.
Je pense qu'on va dire la même chose, pas du tout.
Alors, Anne Flottaz dit pas du tout, Fanny Gallo.
Non, moi je dis que effectivement il y a des effets dans leurs revendications et si on ne les voit pas autant que des syndicalistes hommes, je pense que c'est pas forcément lié à ça, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi lié à comment ça fonctionne les organisations syndicales et les difficultés qu'il peut y avoir à être justement la personne sollicitée quand par les médias, en particulier quand il y a une mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les organisations syndicales une difficulté et une inégalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les femmes et en particulier les ouvrières montent difficilement dans les hiérarchies syndicales, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si c'est moins le cas aujourd'hui que dans les années 70.
Et c'est lié à l'organisation même des syndicats?
Je pense que c'est lié à l'organisation même des syndicats. C'est lié à tout un tas de la domination masculine de manière générale qui se reproduit, se perpétue dans les syndicats, même si les syndicats font tout ce qu'ils peuvent, en particulier depuis il y a eu des différentes phases, mais en tout cas là dans la dernière période depuis la fin des années 90 pour prendre en charge cette question, il y a quand même des difficultés. Et moi ce qui m'a frappé par exemple, c'est qu'elles sont très impliquées au niveau de l'entreprise, au niveau de l'usine, voire par exemple chez Moulinex, elles peuvent être au comité central d'entreprise.
Oui.
Elles peuvent avoir vraiment des responsabilités dans l'entreprise, mais elles ont des difficultés à avoir des responsabilités dans l'organisation syndicale.
Et j'allais vous appeler Fanny Gallo. En réalité, c'est à Anne Flottaz que je m'adresse. Vous qui êtes consultée régulièrement justement pour ces questions-là, comment vous expliquez que la voix des femmes peine à se faire entendre, alors même qu'elles sont plus que concernées par ce qu'elles font?
Ben déjà, je vous mettrai d'abord en évidence un paradoxe. Et si je suis tout à fait d'accord avec Fanny sur le fait que c'est les structures mêmes du fonctionnement
qui
syndical
qui empêchent.
En revanche, dans les interventions que j'anime dans les entreprises, qui sont des interventions qui ont la particularité de faire appel, bien sûr avec l'accord des syndicats, mais de faire appel directement à des personnes volontaires pour travailler tel ou tel travail, les femmes sont infiniment plus nombreuses que les hommes, c'est l'inverse. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, parce qu'elles se sentent plus concernées, c'est pas vraiment le mot juste. Elles ne peuvent pas ne pas poser des questions de danger au travail, de souffrance au travail, de difficulté de travail, d'inutilité du travail. C'est pas possible pour elles parce que ça les touche beaucoup plus directement, beaucoup plus fort. Elles le ressentent beaucoup plus fort.
Bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elles ne l'expriment pas plus fort. Mais
parce que elles l'expriment quand on leur donne la possibilité de le
d'accord.
faire.
D'accord. Donc c'est
quand on crée des conditions où elles ne se heurtent pas à la résistance des hommes, soit du fait du pouvoir supérieur qu'ils ont, soit du fait qu'ils considèrent que certaines choses ne doivent pas être mises en débat. Et en particulier les questions de danger, du coup, elles sont bloquées. Mais si on crée des conditions où elles peuvent s'exprimer, l'expérience que je fais, et pas que moi, que nous faisons tous régulièrement, c'est que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être volontaires pour parler de leurs difficultés. Il y a aussi, dans les stéréotypes machistes auxquels personne n'échappe, hein, même si on essaie de s'en dégager, le fait pour un homme de dire « je souffre, j'ai des difficultés, ça va pas », c'est quand même pas, et surtout dans le monde ouvrier, ça va quand même pas de soi.
C'est mal vu.
Alors que les femmes sont plus libres par rapport à ça. Donc moi je ferais une grosse différence entre le militantisme visible, officiel, et l'activité, y compris militante, dans une entreprise où il y avait justement cette fameuse question de produits toxiques. À la fin de l'intervention, un groupe de femmes a monté un collectif de femmes enceintes ou futures enceintes pour défendre leur protection.
Donc elles s'organisent, mais elles parallèlement à ce qui existe déjà.
Voilà.
Et moi, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Anne, je pense qu'effectivement, par exemple, dans les années 70, ce qui a été frappant, c'est que c'est elles, mais aussi les ouvriers immigrés, qui ont mis en avant la question des conditions de travail, alors même que les organisations syndicales étaient restées quand même, avec des tensions, des contradictions, beaucoup sur la question des salaires. Et cette question des conditions de travail est vraiment arrivée sur le devant de la scène par le biais des ouvrières, entre autres, et pour dénoncer justement le rendement, pour dénoncer le fait qu'elle court partout, tout le temps, etc., etc. Et du coup, là, moi, je pense que ça rebondit un peu sur ce que dit Anne, c'est que c'est différents types de revendications qui peuvent être portées et qui, quelquefois, voilà, sous la pression, peuvent être rendues visibles.
Nous comptons sur vous, mesdames, pour nous dire de l'autre côté de la musique quels sont ces acquis que les femmes ont été chercher dans l'ombre ou dans la lumière et qu'elles gardent précieusement, sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Mais tout de suite, c'est Molasses, c'est On va en Australie, ça s'appelle Hiatus Coyote.
blinding the lens with the focus. Running with my eyes closed, finding all men's in the woodwork. Icy cold, cold braille, mechanical and frail. How do I tessellate? Filter the red page.
Australienne du groupe Molasses, c'était Hiatus Coyote, paraît-il, le nom d'une divinité australienne. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Fanny Gallo et Anne Flottès. Je voudrais, mesdames, que vous nous évoquiez, que vous nous donniez quelques acquis que vous avez pu identifier au sein de l'usine, évidemment, qui sont dus aux femmes, qui sont dus à leur mobilisation. Fanny Gallo.
Ouais, moi je donnerais trois exemples en fait, trois acquis là qui me viennent en
oui.
fait. Je pense qu'il y a un premier groupe d'acquis qui sont peut-être les acquis liés aux revendications portées par les délégués du personnel, les délégués dans l'entreprise sur des journées enfants malades, la question du congé maternité.
Ce sont des journées qui profitent aussi bien aux pères qu'aux mères maintenant.
Oui.
Ce sont
des journées qui profitent autant. D'ailleurs, on voit l'évolution dans les revendications. C'est très intéressant de voir ça. Je pense que bon, ça, ce sont des acquis. Alors après, oui, quand même, avant pour préciser, je pense que tous les acquis sont fragiles et que on n'est pas
à consolider,
à
surveiller.
Ils sont toujours voilà. Et on n'est pas à l'abri de mise en cause de ces acquis. Je pense que un deuxième peut-être acquis, mais qui en fait qui est pas vraiment un acquis, qui a changé dans l'histoire. C'est-à-dire que les ouvrières racontent que, en particulier celle de Moulinex, qui travaillait avec une génération, avec des ouvrières plus âgées qu'elle, que la génération des ouvrières plus âgées qu'elle subissait du droit de cuissage, et que elle, justement, dans les années 70, ça n'a plus été possible. Ça n'a plus été possible, le droit de cuissage, ce droit que s'arroge, donc, des petits chefs. Alors, cela dit, je dis que c'est un acquis un peu, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, puisqu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une reconfiguration de la chose qui s'est transformée en harcèlement sexuel, qui a été pris en charge après par autrement
par la loi, en tout cas
par la loi,
on peut le dénoncer
par la loi, et voilà. on a pu le dénoncer, effectivement. Donc voilà, c'est difficile à dire dans quelle mesure c'est un vrai acquis, ou pas, puisque c'est aussi des choses dont on...
Par définition, c'est très difficile de quantifier.
Voilà, d'en parler, etc. Et la troisième chose qui me semble importante, c'est que dans les mobilisations, les ouvrières prennent confiance en elles. Et je pense que ça les a changées. Et ça les a changées pas seulement dans l'usine, mais aussi dans leur vie privée, dans les relations qu'elles pouvaient créer avec leurs entourages, etc. Elles ont pris confiance, et je pense que ça, c'est évidemment incantifiable, mais
une réalité que vous avez éprouvée. Bah,
c'est quelque chose dont elles parlent aussi, c'est-à-dire des effets que ça a pu avoir. Après, dans comment elles se sont comportées dans l'usine, ou dans leur vie privée. Je dirais ça.
Anne Flottès. Est-ce que vous voyez des acquis dus aux femmes dans les usines?
Oui, j'en vois, mais des acquis qui sont, mais ça vient aussi de la façon dont moi je les rencontre, des acquis qui sont locaux et qui sont discrets. C'est-à-dire que le mode de mobilisation des femmes étant rarement un mode drapeau au vent et beaucoup plus souvent un mode on dit rien et on change les choses sans rien dire à personne parce que comme ça au moins on les tient mieux.
On a la paix.
Oui. Et puis surtout, on peut faire ce qu'on veut, enfin, jusqu'à toute proportion
gardée. Autant que possible.
Oui. Et donc ça, c'est pas des choses qui se voient de l'extérieur. Par contre, de l'intérieur, nous, on voit très bien qu'une fois que les femmes ont mis en mots ou ont mis en acte un certain nombre de subversions possibles, les hommes peuvent plus faire comme s'ils les avaient pas vues. Donc, les hommes, les collègues, j'entends pas la hiérarchie puisque ça lui est caché. Mais, et donc ça change très, très fondamentalement, peut-être encore bien plus fondamentalement que par la loi. C'est-à-dire que les femmes démontrent tous les jours qu'il est possible de résister à tel truc, tel truc, tel truc.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Anne Flottès, que progressivement les femmes font la loi au sein de l'usine et qu'elles organisent la règle du jeu? Elles aussi.
Non, c'est pas du tout de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre de la pratique.
D'accord.
Justement, de la pratique contre la loi. C'est des pratiques subversives qu'elles
mettent en place. Vous avez des exemples à nous donner?
Dans l'usine, un peu tout à l'heure, quand je parlais du fait de protéger les femmes enceintes en dénonçant qu'il y avait des produits toxiques, alors que jusqu'à présent, il y avait un blackout sur les produits toxiques. Mais c'est aussi quelquefois, alors là plus à la limite des ouvrières du côté des services, des pratiques d'alliance avec les usagers, qui sont pas du tout prévus, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport par les prescriptions officielles, et que les femmes mettent en œuvre, parce que justement elles se sentent des deux côtés, du côté producteur et du côté consommateur. Et qu'une fois qu'elles l'ont fait, les hommes sont entraînés dans le mouvement. Et c'est quelque chose qui change, qui peut vraiment amener des modifications extrêmement importantes. Je peux malheureusement pas être plus précise, parce qu'autrement je vous dirais de qui je parle, ce qui m'est totalement impossible.
Ce qui ne va pas avec votre métier.
Je voudrais, par contre, dire que ces avancées, elles ont les inconvénients de leurs avantages. C'est-à-dire que comme c'est pas une loi, comme c'est pas quelque chose de public,
elle ne peut pas être dupliquée partout.
Ça, d'une part, oui, c'est très juste ce que vous dites, et en plus, ça ne se sait pas, et en plus, c'est remis en cause très facilement. Bien et sûr. En particulier, je pense que toutes les avancées que les femmes avaient pu obtenir sont actuellement remises en cause plus que les autres, du fait de la plus grande précarisation des femmes au travail.
En réalité,
c'est quand même un élément énorme, parce que comme ce sont des avancées qui reposent sur le collectif au sens réel du terme, c'est-à-dire les coopérations quotidiennes, il suffit de casser les collectifs en cassant les structures de travail et en faisant de la précarité
et
pour que ce soit très difficile.
Et on tue le mouvement. En fait, vous répondez à la question, vous avez précédé la question que je voulais vous poser, qui était de ce qui restait à conquérir. Et en fait, j'ai presque envie de répondre à votre place, tout. Ou presque.
Surtout à préserver. Parce qu'il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses qui peuvent se diffuser, mais ce qu'il faudrait, c'est protéger les petites pousses qu'il y a partout.
Fanny Gallo.
Parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Qu'est-ce qui reste à conquérir?
Oui, effectivement, je pense qu'il reste beaucoup de choses à conquérir. Je pense que la question de l'égalité... n'est pas du
tout. Elle est loin d'être réglée.
Elle est loin d'être réglée. Voilà, je pense que la question de la division sexuée du travail, des secteurs de production, de la place dans la hiérarchie de l'usine, est toujours, n'est pas du tout réglée. Il y a toujours, il y a ce que disait Lydie. Enfin, moi, je pense que l'intervention de Lydie était éclairante de ce point de vue. Enfin, il y a encore du machisme, il y a encore une difficulté pour les hommes à avoir des représentantes syndicales, à avoir des supérieures femmes. Il y a encore beaucoup de préjugés et de stéréotypes. Et je pense que
donc l'usine reste encore à féminiser, moins à conjuguer au féminin. Plutôt
oui, et à transformer de manière générale, parce qu'en réalité, c'est aussi l'organisation de la production, c'est aussi la question de la rentabilité, la question de ce qui pousse aussi les entreprises à organiser leur production de cette manière-là, qui est quand même une recherche aussi de profit à court terme, etc., qui produit ça, c'est-à-dire qui produit, c'est intrinsèquement lié, en fait.
Donc la route est encore longue, si l'on vous en croit, mesdames. Merci à vous, Anne Flottez. Votre livre s'appelle « Travailler, quel boulot ? Les conflits du travail, enjeux politiques du quotidien ». Il est publié aux éditions Sileps. Merci au studio de Radio France Lyon, grâce auquel nous étions en échange. Fanny Gallo, votre livre s'appelle « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société ». Livre publié aux éditions de La Découverte. Les voisins, merci pour votre attention. On se retrouve demain. Nous parlerons des jeux en ligne, séduisants mais dangereux. Merci à l'équipe 7 milliards, Romain Dubrac, Éléonore Kranik et Jonas Mallet-Sollard, ainsi que Sandrine Straram. Le podcast de cette émission est disponible dès à présent sur le site de RFI, www.rfi.fr. À demain les voisins.